Page d'Histoire, émission spéciale Droits des femmes, préparée par les premières bacs pro esthétiques.
Bonjour à tous et bienvenue dans Une page d'histoire, une émission faite par des femmes et qui parle de quoi les filles ?
Des femmes !
Au micro à mes côtés, Marine et Sarah. Bonjour les filles.
Bonjour Sarah, bonjour Léa, bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, on se retrouve donc pour ouvrir une page d'histoire. Ensemble, on va retracer un siècle de combats pour faire progresser les droits des femmes. Un vaste sujet, Marine.
Oui, effectivement, Léa, on va parler d'émancipation, de féminisme, de parité, bref, de lutte menée tout au long du XXe siècle pour faire progresser les droits et les libertés des femmes. Les avancées sont nombreuses, mais on verra dans un instant qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Le micro-trottoir réalisé par nos acolytes Lucie et Océane est assez parlant. Je vous rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir à l'émission Twitter, sur Twitter en utilisant le hashtag EuropeLive.
Et nous écouter en direct sur europelive.fr. Dis-moi Sarah, quel est le sommaire de l'émission ?
Les élèves ont travaillé par groupe de 4 à 6 personnes sur différents thèmes qui constituent les parties de cette émission. Le premier thème s'intéresse à la place des femmes en politique, du combat pour le droit de vote jusqu'à celui pour la parité. La seconde partie, quant à elle, parlera du droit des femmes à disposer librement de leur corps. La troisième sera consacrée à l'égalité des femmes et des garçons à l'école et dans l'entreprise. Nous recevons sur le plateau Valérie Crin, chargée de mission académique sur cette question. Nous aborderons ensuite un fléau, celui des violences faites aux femmes, avant de conclure sur le féminisme aujourd'hui.
Merci Sarah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on remonte le temps pour évoquer deux personnages à l'opposé l'un de l'autre.
Effectivement Léa, on va commencer par le commencement et vous parler tout d'abord d'Olympe de Gouges, pionnière du féminisme. On ne le sait peut-être pas assez, mais les femmes se battent depuis assez longtemps. Et Olympe de Gouges en est l'illustration puisqu'elle est née en 1748. Alors qui est-elle ? C'est une femme de lettres française, devenue femme politique, qui est connue pour avoir rédigé, au moment de la Révolution française, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Et de quoi parle cette déclaration ?
Eh bien, le premier document a évoqué l'égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. C'est une critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énumère des droits qui ne s'appliquent qu'aux hommes. Dans sa déclaration, Olympe de Gouges défend la cause des femmes, écrivant ainsi que la femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme. Ainsi, elle dénonce le fait que la Révolution a oublié les femmes dans son projet de liberté et d'égalité.
Napoléon, au pouvoir quelques années plus tard, oublie lui aussi de donner des droits aux femmes ?
C'est le moins qu'on puisse dire, Léa. Je dirais même qu'il faut être bien assise pour lire le Code Napoléon, qui est une catastrophe pour les femmes. Par exemple, interdiction d'accès au lycée et aux universités, interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens, exclusion totale de droits politiques, interdiction de travailler sans l'autorisation du mari, contrôle du mari sur la correspondance et les relations, interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation, répression très dure de l'adultère pour les femmes. Bref, Napoléon définit sans ambiguïté la place de la citoyenne dans la société. Je cite le Code civil. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux, rien que ça.
Alors vous me direz, l'une et l'autre, que tout ça, c'était il y a plusieurs siècles. La situation a évolué, mais on va voir avec Océane et Lucie que les préjugés et les stéréotypes sexistes ont toujours la vie dure. On en écoute tout de suite quelques-uns recueillis dans les couloirs du lycée.
Le préjugé que j'ai entendu le plus, c'est une fois j'ai voulu m'inscrire à l'armée et... J'étais devant un adjudant et il m'a fait comprendre que comme j'étais une fille, que je pouvais pas venir et que il fallait que je sois... J'ai un physique de garçon pour aller là-haut, donc j'ai pas compris.
La femme doit faire à manger, le ménage, pendant que l'homme regarde la télé.
Souvent, dans le monde de l'entreprise, on pense que les femmes ne sont pas capables d'assurer certaines fonctions, de prendre des décisions et sont trop émotives. Et on pense qu'elles sont pas capables de prendre leurs responsabilités en entreprise.
Alors, on vient de l'entendre, les clichés sexistes existent dans tous les domaines. Alors, c'est quoi le sexisme exactement ?
Eh bien, le sexisme, c'est une notion créée par les féministes américaines dans les années 60. On peut le définir comme une attitude discriminatoire envers une personne en raison de son sexe.
Voici quelques exemples de stéréotypes de genre. Les filles qui portent des jupes courtes sont des filles faciles. Les garçons sont plus forts, courageux et rationnels que les filles qui, elles, sont douces, fragiles, coquettes et sensibles. Un garçon, ça ne pleure pas. Les filles sont nulles en mathématiques.
Oui, et on peut rajouter que les clichés sexistes se retrouvent aussi dans la dénomination des professions. On est toujours interpellé, voire suspicieux, quand on entend parler d'une femme camionneur ou plombier, ou à l'inverse, d'un homme sage-femme ou esthéticien. Tout cela est révélateur de ces rôles sexuels déterminés.
Ainsi, c'est vrai qu'on entend plus souvent parler d'une secrétaire, mais un directeur, d'une infirmière ou d'un médecin. Les clichés sont véhiculés au quotidien, que ce soit dans les publicités, les manuels scolaires, les clips de musique, les médias ou encore le sport. Les exemples sont nombreux et il faut lutter pour déconstruire ces stéréotypes.
Dans quelques instants, ce sera au tour de Cécile, Pauline et Cassandra de prendre le micro pour évoquer le combat des femmes pour la conquête des droits politiques.
On se retrouve sur Roleplay avec Maëva et Cassandra pour parler de la place des femmes en politique. Les élections présidentielles n'auront lieu qu'en l'année prochaine, mais déjà les candidats sont sur les rangs pour les primaires. Parmi eux, des femmes qui aspirent à la plus haute fonction de l'État.
Que de chemin parcouru pour en arriver là. Car il faut rappeler que le combat des femmes pour la conquête des droits politiques a été long et périlleux. Ce n'est qu'en 1944 qu'elles obtiennent le droit de vote après plusieurs décennies de débats, de luttes, d'hésitations et de craintes. La cause féministe se défend dans les salons et plus souvent dans la rue. Des femmes engagées mènent le combat, citons par exemple les suffragistes Hubertine Euclair et Louise Weiss, qui se sont battues pour que les femmes puissent voter et être élues. Leur argument: les femmes ont les mêmes devoirs que les hommes, elles doivent disposer des mêmes droits.
Ces deux féministes ont-elles obtenu les résultats ?
Toutes les deux mènent des actions d'éclat pour sensibiliser l'opinion publique, mais régulièrement avec obstination, le Parlement rejette les projets de loi qui visent à accorder des droits civiques aux femmes. Pour eux, la politique est une affaire d'hommes et les femmes sont incompétentes et influençables. C'est donc après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que 12 millions d'électrices votent pour la première fois. On peut parler d'un retard français car d'autres pays européens ont accordé le droit de vote aux femmes bien plus tôt qu'en France. 1918 en Allemagne, 1919 au Luxembourg et 1934 en Turquie.
Merci Cassandra. On enchaîne avec Maëva. À la fin du XXe siècle, c'est le combat pour la parité qui est mené afin de renforcer la représentation des femmes dans la vie politique française.
Oui, Cécile, c'est le président Jacques Chirac qui fait voter en juin 2000 la loi sur la parité. Celle-ci stipule que les partis doivent présenter autant d'hommes que de femmes pour les scrutins de liste. Et là-dessus, la loi a porté ses fruits, puisque la proportion des femmes dans les conseils municipaux ou régionaux avoisine aujourd'hui les 50%, alors qu'elle était inférieure à 30% avant le vote de la loi.
La parité n'est donc plus un enjeu de lutte alors ?
Eh bien si, car cette loi a des limites. Pour les scrutins uninominal, à l'Assemblée nationale par exemple, la loi ne peut s'appliquer. Celle-ci explique qu'aujourd'hui, seul un député sur quatre est une femme, même ratio chez les sénateurs. Et puis la loi est assez hypocrite car elle permet aux partis de laisser aux femmes les circonscriptions ingagnables et de payer des amendes limitées plutôt que d'en respecter l'esprit.
Merci à toutes les deux. Dans quelques instants, Manon, Mélanie, Méline, Guylaine et Apolline.
Une page d'histoire, émission spéciale Droits des femmes, préparée par les premières bacs pro esthétiques.
Nouvelle partie dans une page d'histoire. Avec Guylaine, Mélanie, Méline et Manon, on parle de la lutte menée par les femmes pour disposer librement de leur corps. Pour commencer, il faut rappeler quelques dates qui ont marqué l'histoire des mouvements féministes. En 1967, la loi Neuwirth, qui autorise la contraception, marque une première avancée. En autorisant la vente de contraceptifs, s'ouvre un autre débat, celui du droit à l'avortement. En 1971, 343 femmes ayant eu recours à l'avortement publient un manifeste dans le Nouvel Observateur. L'année suivante, l'acquittement de Marie-Claire à Bobigny, jugée pour avoir avorté suite à un vol, est un pas supplémentaire qui relance la mobilisation des féministes. Écoutons son avocate, Gisèle Halimi.
Ah oui, j'estime qu'un grand pas a été fait.
Et Marie-Claire a été acquittée.
Marie-Claire a été acquittée car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu.
Ce procès crée un mouvement d'opinion important qui débouche le 17 janvier 1975 sur la loi Veil qui légalise l'interruption volontaire de grossesse. Je laisse le micro à Mélanie qui a travaillé sur Simone Veil.
Simone Veil est née en 1927 à Nice dans une famille de confession juive pour qui l'attachement à la France, le respect de la laïcité et l'importance des études sont des valeurs non négligeables. Elle a vécu un épisode tragique alors qu'elle n'avait que 17 ans où elle est déportée avec sa mère et sa sœur à Auschwitz. C'est la seule de sa famille à avoir survécu. À son retour en France, elle commence des études de droit et de sciences politiques qui l'amèneront en 1969 à entrer dans le gouvernement en tant que ministre de la Justice avant de devenir ministre de la Santé. C'est à ce titre qu'elle porte devant les parlementaires la loi sur l'IVG. Écoutons-la ensemble lors de la présentation du projet de la loi à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Simone Veil mène le combat dans l'hémicycle et les coups reçus ont été nombreux. Elle a subi de nombreuses attaques verbales, des allusions au nazisme et elle a aussi reçu des courriers contenant des dessins ignobles comme des croix gammées. C'est sur le terrain des idées qu'elle réussira à faire adopter la loi au Parlement en 1975.
Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection.
Notons que la lutte des féministes s'est poursuivie les décennies suivantes. Les femmes obtiennent en 1982 le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale, ainsi que le droit à une contraception d'urgence sans prescription en 2000.
Merci à Mélanie pour ce portrait. On continue sur le thème en évoquant une association qui milite depuis longtemps pour les droits des femmes, c'est le planning familial. Le planning familial a été créé en 1956 sous le nom de la maternité heureuse par des hommes et des femmes bien décidés à faire changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement ainsi que l'utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif en France. En 1960, il devient le planning familial et adhère à l'IPPF qui se mobilise pour que les droits en matière de sexualité et de reproduction soient considérés comme des droits humains fondamentaux. Le planning familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de violence, lutte contre le sida et les IST, contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales. L'association est présente dans 150 lieux d'information et 29 centres de planification implantée sur le territoire. Manon reçoit Fanny, une bénévole du centre de Reims.
Bonjour Fanny, merci d'avoir accepté l'invitation d'une page d'histoire. Comme vient de le dire Méline, vous êtes bénévole et militante féministe au sein du planning familial. Pouvez-vous nous préciser un peu plus en détail quand et pourquoi le planning familial a été créé ?
L'association a été créée en 1956, à une période où les moyens de contraception étaient interdits. On ne pouvait pas en faire la commercialisation ni la publicité. Et à une période également où l'IVG était totalement interdit et pénalisé par la loi. Donc ce sont des hommes et des femmes qui se sont regroupés pour partager leurs connaissances sur les moyens de contraception afin d'espacer les naissances et de pouvoir désirer un enfant à un moment précis dans leur vie, quoi. C'est-à-dire différencier la reproduction du plaisir.
Que viennent chercher les personnes qui viennent vous voir ?
Les personnes qui viennent nous voir cherchent des informations sur les moyens de contraception, comment ça marche, où je peux me les procurer, etc. Ou d'autres viennent pour des questions sur leur sexualité ou encore sur les démarches pour accéder à une interruption volontaire de grossesse.
Quel type de public accueillez-vous ? Y a-t-il une catégorie sociale davantage représentée que les autres ?
Alors, tous les publics, hein. Des hommes, des femmes, de tous les âges, de tous les milieux socio-professionnels. Il n'y a pas vraiment de catégorie de personnes qui sont ciblés et qui viennent pour nos actions. Ça touche vraiment tout le monde. La sexualité, ça touche tous les niveaux de la population.
Selon vous, alors que l'information est abondante sur Internet, les jeunes d'aujourd'hui sont-ils suffisamment informés ou bien informés ?
Alors, suffisamment... Enfin, je veux dire, oui, il y a un flux d'informations sur Internet, effectivement. Après, il faut savoir faire la part des choses et différencier la bonne de la mauvaise information. Sur Internet, on peut dire tout et n'importe quoi. Et donc, on peut se retrouver avec des personnes qui s'interrogent sur les démarches pour accéder à l'IVG et qui se retrouvent avec des désinformations sur Internet.
On imagine bien que les actions que vous menez sont nombreuses. Pouvez-vous nous les présenter ?
Alors nos actions, donc déjà on a une permanence d'accueil, hein, donc le public peut venir poser ses questions le mardi soir et le mercredi après-midi. Ils peuvent venir chercher des tests de grossesse gratuitement, la pilule d'urgence gratuitement et des préservatifs gratuitement. Ensuite on se déplace aussi dans les collèges, dans les lycées pour faire l'éducation à la sexualité. Parce que dans la loi, c'est expliqué que les jeunes collégiens, lycéens et même en primaire doivent recevoir l'éducation à la sexualité, au moins 3 séances par an. Ça, c'est le cadre de la loi. Et donc, nous, on est un partenaire de l'éducation nationale. On a l'agrément de l'éducation nationale et on apporte un enseignement complémentaire, donc notamment l'éducation à la sexualité. Donc, dans les collèges, dans les lycées, on se rend également dans des IME. IME, c'est Institut Médico-Éducatif. Pour les personnes qui sont déficientes. Là, on travaille avec un groupe de l'Institut Michel Fendre. Ce sont des jeunes qui ont des handicaps visuels et auditifs. On a travaillé avec l'Armée du Salut. On fait des permanences également auprès des Restos du Cœur. On participe à des journées santé comme Solidarité Sida, ce genre de choses.
Pensez-vous qu'encore aujourd'hui, les femmes doivent se battre pour pouvoir disposer de leur corps ?
Oui, la lutte n'est pas finie. En fait, je veux dire par là qu'il faut toujours rester vigilante, même sur le droit que nous avons pu acquérir jusqu'alors. Il faut toujours rester vigilante et continuer à défendre nos droits. Dernièrement, sur l'IVG, il y a un recul en niveau européen. Certains pays sont allés en arrière dans leurs lois pour l'IVG, notamment l'Espagne, l'Italie, etc. Donc, il faut toujours rester vigilante. Ouais.
Enfin, dernière question pour nos auditeurs. Quels sont les moyens de vous contacter ?
Ils peuvent déjà sur Internet regarder notre site planningfamilial.org. Ça, c'est le site Internet de notre confédération. Donc là, déjà, ils pourront trouver des réponses à leurs questions et mieux nous découvrir. Ensuite, ils peuvent venir à notre local, à notre bureau, à la Maison de la Vie Associative, au 122 bis rue du Barbâtre. Donc le mardi soir à partir de 18h30 et le mercredi à partir de 15h au bureau 307. Et puis, ils peuvent également laisser un message sur notre répondeur. Et une personne rappelle automatiquement.
Un grand merci, Fanny, pour toutes ces informations. On se retrouve dans quelques instants sur Europe Live.
We'll be right back.
On se retrouve dans une page d'histoire avec Tiffany, Léana, Anaëlle et Océane. Nous allons vous parler de l'égalité des filles et des garçons à l'école et dans l'entreprise. Bonjour à toutes, bonjour Anaëlle. Avec Léana, tu as travaillé sur ce thème. Peut-on dire que le XXe siècle a été celui de la scolarisation des filles ?
Oui, tout à fait, Laurine. On peut dire qu'avant la Troisième République, les filles étaient exclues de la scolarité. Le sexe féminin était très longtemps considéré comme inférieur à celui des hommes. C'est pour cela qu'elles étaient cantonnées au cocon familial. L'école poursuit alors l'unique objectif de devenir des femmes modèles. C'est dans les années 1960 que la mixité scolaire s'impose. On peut donc conclure, Laurine, que le XXe siècle a été celui de la scolarisation des filles.
Merci, Léana. Effectivement, l'égalité des chances est une question importante au sein du système éducatif. C'est ce qu'on va voir avec Anaëlle et son invitée.
Bonjour et merci, Laurine. Bonjour, Valérie Crin. Vous êtes référente académique pour les questions de l'égalité filles-garçons à l'école. Aujourd'hui, nous aimerions parler de votre mission. En quoi consiste-t-elle ?
Ma mission au sein de l'éducation nationale, c'est trois grands axes. L'animation du réseau des correspondants égalité filles-garçons, le travail avec les partenaires pour décliner la convention interministérielle, et puis animation du réseau des correspondants égalité filles-garçons, travailler avec les partenaires, à travailler avec les établissements scolaires pour mettre en place des actions, et puis la formation continue des personnels.
Quelles sont les inégalités qui subsistent encore aujourd'hui à l'école ? Disposez-vous des chiffres ou d'indicateurs pour les mesurer ?
Alors, les inégalités qui subsistent encore à l'école, moi je vais prendre comme exemple l'orientation, où on s'aperçoit que les parcours des filles et des garçons ne sont pas identiques. Je dirais, en école élémentaire, les filles réussissent mieux que les garçons. Au collège, on a à peu près le même résultat. C'est surtout au niveau de l'orientation où les différences de parcours entre les filles et les garçons sont différents. Par exemple, à l'issue de la troisième, les garçons vont se diriger plus facilement vers les voies professionnelles, alors que les filles vont se diriger vers la voie générale et technologique. Quand les filles et les garçons se dirigent vers la voie professionnelle, ils n'investissent pas les mêmes secteurs d'activité. Tout ce qui est tertiaire va être privilégié, on va dire, par les filles, et tout ce qui est industriel va être privilégié par les garçons. Alors ça a du mal à évoluer, même s'il y a eu des efforts de fait. Tout ce qui concerne, à l'issue du lycée. Alors globalement, dans les filières générales, ES, S et L, donc littéraire, économique et social et scientifique, là encore, la répartition des filles et des garçons ne se font pas de la même manière. Je dirais pour S, on a, 49-51%, donc 49% de filles et 51% des garçons qui composent les classes de terminale scientifique. Alors on va se dire, il y a autant de filles et autant de garçons. Après, ce qui se joue, c'est à l'issue de la terminale, où les filles et les garçons se dirigent vers l'enseignement supérieur, on retrouve cette ségrégation des filières typiquement féminines, entre guillemets, puis les filières où les garçons se dirigent préférentiellement. Donc je pense notamment aux classes préparatoires aux grandes écoles, aux BTS, aux DUT, tertiaires ou industrielles. Donc voilà, on retrouve encore cette répartition de filières destinées aux filles et de filières destinées aux garçons. Mais tout ça, c'est une question de représentation, puisque dans les textes, rien n'empêche un garçon ou une fille de choisir la filière qu'il souhaite.
Comment concrètement, dans les établissements, cette question de l'égalité des chances est-elle abordée ?
Alors ça peut être un travail sur les stéréotypes et les préjugés, que ce soit dans le domaine de l'orientation, que ce soit au niveau des compétences développées dans les disciplines, que ce soit dans les rapports filles-garçons, dans les rapports enseignants-élèves. Donc un certain nombre d'actions dans les établissements sont mises en place pour travailler toutes ces questions c'est plus des questions quand même de travail sur les stéréotypes et les préjugés derrière toutes ces questions des rapports filles-garçons, de l'orientation filles-garçons, du rapport aussi des parents par rapport à ces questions
de l'orientation ou du vécu de leurs enfants dans les établissements scolaires.
Y a-t-il des actions au niveau académique ?
Alors, au niveau académique, il y a déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une journée de formation à destination des acteurs et des actrices du système éducatif, donc les correspondants et correspondantes égalité filles-garçons. Donc, tous les ans, ces personnels sont réunis pour travailler sur ces questions. Alors, selon un thème choisi par année, cette année, par exemple, c'était sur le respect mutuel des deux sexes. L'année dernière, c'était sur la mixité des métiers. Donc, au niveau académique, il y a aussi des concours organisés avec le conseil régional, donc qui est le prix de l'égalité, où des filles et des garçons peuvent concourir. Alors, des filles et des garçons qui sont dans les filières justement professionnelles et qui, alors pour des garçons qui sont dans des filières où on a principalement des filles, et inversement des filles dans des filières où on a principalement des garçons, viennent exposer un petit peu leur choix d'orientation, leur projet d'avenir dans le secteur d'activité dans lequel ils veulent aller. Il y a eu aussi tout un travail, au niveau académique aussi là, mais plus à destination des lycées, un concours logo, pour un logo qui avait pour objectif de créer un visuel pour la région Champagne-Ardenne et pour l'Observatoire de l'égalité. Donc là où les élèves ont participé, ont réfléchi, ont proposé et ont des logos, des visuels pour cet observatoire. Il y a aussi des actions des branches professionnelles, je pense notamment à ERDF, qui peut proposer, dans le cadre de l'association Elle Bouge, une plateforme de stage, par exemple pour des élèves de 3e, principalement des filles, qui voudraient se diriger vers l'industrie. Il y a le MEDEF aussi qui organise des journées de formation, enfin des journées d'information à destination des élèves. Et puis après, il peut y avoir aussi des initiatives locales. Et je pense notamment à toutes les chargées de mission départementales droits des femmes qui interviennent aussi, qui peuvent être des personnes ressources dans les établissements et qui proposent aussi un certain nombre d'actions pour travailler sur cette question de stéréotypes et préjugés. Et je pense aussi au monde associatif, le planning familial, les CIDFF, et puis toutes les troupes aussi, les artistes, les troupes théâtrales qui utilisent cet outil pour réfléchir et pour faire avancer les représentations des unes et des autres.
Quels sont les futurs projets que vous comptez mener au niveau académique ?
Alors, les futurs projets, alors on a en ce moment là un projet qui a pour objectif, là c'est un projet académique en lien avec la délégation droits des femmes. On va remettre un trophée de la mixité, et ce trophée a pour objectif, donc c'est l'ensemble des établissements qui peuvent concourir, qui doivent remettre en fin de compte un dossier de candidature avec l'ensemble des actions ou une action particulière qu'ils ont menée dans leur établissement, qu'ils veulent mettre à l'honneur, et puis qui permet de voir un peu la dynamique engagée dans l'établissement sur cette question de l'égalité filles-garçons. Alors ça peut être sur plusieurs axes de la convention interministérielle, ça peut être sur un, ça peut être une action sur une année, sur plusieurs années, sur voilà. Une autre action que j'aimerais mener au niveau académique, c'est toute une réflexion, parce qu'on travaille avec les enseignants, on travaille avec les élèves, mais j'aimerais aussi réfléchir avec les élèves sur comment les élèves peuvent parler à d'autres élèves de ces questions. Et je pense notamment au CVL, au CVC, donc comment, dans cette instance, les élèves peuvent s'emparer de cette question et proposer des actions ou faire remonter des interrogations de nos jeunes des établissements au niveau académique.
Merci Valérie Crin. Merci à toutes les deux. De l'école à l'entreprise, il n'y a qu'un pas. On enchaîne donc avec Tiffany pour parler des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail.
En effet, les inégalités persistent. 2/3 des femmes sont en activité contre 3/4 des hommes. Il faut néanmoins noter sur les 15 dernières années que la situation s'améliore. L'écart se réduit au bénéfice des femmes. Par ailleurs, les femmes représentent près de 3/4 des personnes en sous-emploi. Elles travaillent 4 fois plus que les hommes à temps partiel et elles sont plus nombreuses à occuper un emploi précaire. Le taux de chômage des femmes est légèrement au-dessus de celui des hommes, 10% contre 9,7%. Enfin, les femmes gagnent toujours 20% de moins que les hommes. À temps complet, un homme gagne en moyenne 2 312 € par mois, soit 19,3% de plus que les femmes. Mais ce sont chez les cadres que les inégalités salariales sont la plus criante.
Pour combattre ce genre d'inégalité, des associations telles que Créer comme elle ont été fondées. Bonjour Océane, que peut-on dire sur cette association ?
Bonjour Laurine, l'association Créer comme elle a été fondée par des femmes pour des femmes en juillet 2007 à Troyes pour contribuer au développement et à la pérennisation d'entreprises tenues par des femmes. Cette association a également plusieurs projets tels que la création, la reprise ou le développement d'entreprises, le développement des compétences managériales et personnelles des femmes afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie de femme mais aussi dans leur vie d'entrepreneuse.
Je remercie Léana, Anaëlle, Tiffany, Océane et Valérie Crin pour avoir participé à ce sujet. Dans un instant, la dernière partie de l'émission consacrée aux violences faites aux femmes.
Bonjour à tous, nous allons aborder le sujet des violences faites contre les femmes. Nous avons choisi de parler du CIDFF qui vous sera présenté par Tania, de l'affaire Orelsan présentée par Kathleen Elinsey, et je vais dès maintenant vous parler d'Esta Webster. Esta Webster est une comédienne qui est devenue l'une des plus jeunes animatrices radio à l'âge de 8 ans. Elle a toujours vécu entourée d'artistes en tout genre et souhaite devenir journaliste à l'adolescence. En suivant une formation, elle commence à proposer ses textes aux artistes qu'elle côtoie. Et c'est alors que commence son aventure de la scène qui est devenue sa passion. Esta Webster propose des spectacles pleins d'humour qui abordent un sujet très sensible, les violences faites aux femmes, notamment avec son spectacle Femmes Indigo. Elle aborde dans ses spectacles l'égalité homme-femme, la violence faite aux femmes et bien d'autres thèmes. Elle est présente aujourd'hui au lycée Europe et nous la remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Esta Webster.
Bonjour Maëva.
Vous êtes chanteuse et humoriste et vous êtes présente au lycée aux côtés du CIDFF. Pouvez-vous nous dire quelles sont les formes et les thèmes de votre intervention devant les élèves ?
Alors moi, principalement, je suis humoriste, donc c'est assez particulier par rapport aux actions qu'on mène, puisque je suis payée pour dire des bêtises, en gros. Hein. Voilà, mais comme toute bêtise, derrière, souvent se cache une vérité. On se sert de ce levier-là, en fait, ouais, pour faire un spectacle qui fait réfléchir. Les thèmes que j'aborde, c'est principalement autour de la vie de la femme, pour le droit des femmes simplement. Et quand on parle du droit des femmes, on parle aussi du droit des hommes. Donc en fait, on passe de l'un à l'autre dans ce spectacle. Voilà.
Comment réagissent les élèves ?
En général, ils sont plutôt ouverts. Donc j'ai des réactions qui sont agréables, chaleureuses, ouvertes. On passe un bon moment aussi ensemble, on rit. C'est important, le rire. Et puis après, on discute. Voilà.
Les réactions sont-elles les mêmes chez les filles et les garçons ?
Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle droit des femmes, les filles sont souvent, mais pas toujours, vindicatives. Parce que c'est vrai qu'à force de ne pas être entendues, on finit par parler plus fort. Et puis les garçons, eux, ils en ont peut-être marre au bout d'un moment de se faire montrer du doigt parce qu'ils ne sont pas forcément les garçons qui posent problème. Ou alors, ils ne le ressentent pas comme ça aussi. Et puis, il y a des filles aussi qui en ont marre, qui disent « on fait ce qu'on peut ». Puis voilà. Des fois, en fait, on vit dans un monde qui est quand même assez violent, voire cruel les uns envers les autres. Les uns et les autres, pour les uns et les autres. Et on ne se rend plus compte, en fait, des fois, tellement on est habitué par la violence quotidienne, de ce que ça nous fait. Voilà, donc remettre le doigt dessus, pour un homme et pour une femme, c'est pas la même chose.
Ce sont des sujets de société graves que vous abordez par le rire. Dans quelle mesure l'humour est-il une arme pour lutter contre les inégalités et les violences faites aux femmes ?
Dans quelle mesure c'est une arme ? Simplement, ça permet d'aborder les choses un peu plus honnêtement ou crûment. Si on y va sur un ton grave, c'est important aussi de le faire, hein, les deux sont importants, je pense. Mais si on en parle sur un ton grave, souvent, c'est plus difficile d'en parler parce que tout ce qui est grave, parfois, ça met une barrière. On n'est pas forcément ouvert pour se dire, tiens, quand j'ai ce comportement-là un peu tous les jours, qui me fait bien marrer, moi, hein, personnellement, je fais du mal à quelqu'un. Parce que quand on le fait, on ne fait pas forcément les choses pour faire du mal. On ne se rend pas compte, en fait, des petites violences quotidiennes qu'on fait. Et pouvoir en rire ensemble pour mieux en parler après, sans montrer personne du doigt, sans jugement, sans... c'est quand même beaucoup plus simple. Et le rire permet ça.
Vous intervenez dans les écoles, mais vous vous produisez aussi dans des One Woman Show, notamment... Femme Indigo, pouvez-vous nous parler de ce spectacle ?
Alors ce spectacle-là, il est un peu plus particulier. Je le joue beaucoup en général autour du mois de novembre, puisqu'il y a le 25 novembre qui est la journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. Donc celui-là, il parle plus de violences physiques, on va dire, ou de violences morales. C'est-à-dire que ce n'est pas les petites violences quotidiennes ou les petites vacheries qu'on se fait. Là, on est quand même sur des choses un peu plus dures. Voilà.
Merci beaucoup Esta Webster d'être venue au micro d'Europe Live. Je vais laisser la parole à Tania pour qu'elle vous présente le CIDFF aux côtés duquel vous intervenez aujourd'hui.
Bonjour. Donc les CIDFF sont des centres d'information sur les droits des femmes et des familles qui comptent plus d'une centaine d'associations locales. Ce sont des lieux d'accueil et d'information sur les droits pour tout public et en particulier pour les femmes. L'objectif d'un CIDFF est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes. Le CIDFF accueille, écoute, informe, oriente et accompagne le public. Il s'engage à une prise en compte globale des situations, une information confidentielle et gratuite, un accueil personnalisé, une neutralité politique et confessionnelle. Le CIDFF s'occupe de tout type de violence, que ce soit verbale, physique, psychologique, économique ou sexuelle. Il les résout en donnant des conseils concernant l'aide juridique. Il peut mettre en place des avocats à disposition, des solutions d'hébergement, d'urgence ou de longue durée. Je vais maintenant laisser la parole à Kathleen Elinsey pour qu'elle vous présente l'affaire Orelsen.
Dans ce sujet, un événement récent avec le rappeur Orelsen et son titre « Sale pute » suscite la polémique. En mars 2009, ils incarnent un homme menaçant de violence l'ex-petite amie qu'il a trompé, en lui promettant entre autres qu'il lui déboîterait la mâchoire ou la ferait avorter à l'Opinel.
Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. T'es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sale catin, un sale tapin, tous ces mots doux c'était que du baratin. On se tenait par la main, on s'enlaçait, on s'embrassait. On verra comment tu fais la belle avec une jambe.
La polémique l'amène à répondre que le texte exprimerait une pulsion que toute personne à qui ce type de mésaventure serait arrivée aurait pu être amenée à ressentir dans ce genre de situation. En aucun cas ce texte ne serait une lettre de menace, une promesse de violence ou une apologie du passage à l'acte. La chanson décrite comme un texte scandaleux aux propos odieux qui incite directement à la violence sexiste y est alors demandé de la supprimer d'Internet. Rappelons qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon, que toute incrimination de provocation à commettre un crime, viol ou meurtre ou une agression sexuelle est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Poursuivi depuis février 2009, provocation au crime, par ni pute ni soumise, il est relaxé le 12 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Paris qui estimait que le rappeur s'exprimait dans le cadre de la liberté d'expression artistique. En mai 2014, la cour d'appel de Paris met fin aux poursuites et classe la plainte initiale jugeant que l'action des associations féministes était prescrite. En décembre 2015, la cour de cassation reprend le dossier et Orelsan est rejugé. En février 2016, la cour d'appel de Versailles relaxe Orelsan avec comme explication la liberté d'expression.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site stop-violence-femmes.gouv.fr ou appelez le 3919 qui est un appel anonyme et gratuit.
On se retrouve sur Europe Live pour la dernière partie de cette émission où l'on va parler de la journée de la femme et des fémines. Pour commencer, qu'est-ce que la journée de la femme, Justine ?
C'est une journée de manifestation mondiale sur la situation des femmes. Comme tous les ans, elle s'est déroulée le 8 mars. En général, des manifestations sont organisées pour faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes.
Comment est-elle apparue ? Elle a été créée par les Nations Unies dans les années 70. Elle trouve son début dans les luttes des ouvrières et des suffragettes. Aujourd'hui, la journée de la femme est toujours d'une grande importance, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. Maintenant, quelques projets pour 2030.
Les projets pour 2030. Faire en sorte que les hommes et les femmes soient sur un même pied d'égalité, mais qu'ils aient également accès à des activités et une bonne éducation qui les prépare à suivre un bon enseignement. Mettre fin dans le monde entier à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Éliminer de la vie toutes les formes de violences faites aux femmes, y compris la traite et l'exploitation sexuelle et d'autres types d'exploitation. Éliminer toutes les pratiques préjudiciables telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la manipulation génitale féminine.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est déroulé le 8 mars à Reims? Nous avons eu le droit au slam à femmes qui s'est déroulé au Café du Palais. Les drôles de dames ont exploré l'univers féminin sous toutes ses coutures, avec les hommes et filigranes. Maintenant, je laisse la parole à Alexine, Élise et Eva pour parler du féminisme moderne.
Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du groupe Femen. Les Femen sont un groupe féministe fondé en 2008 en Ukraine par Anna Hutsol, Oksana Tchetchko et Alexandra Tchevchenko. À la fondation des Femen, elles manifestaient habillées, personne ne prêtait attention à elles, donc un jour elles ont enlevé leur t-shirt pour attirer les photographes et les caméras du monde entier. Maintenant, leurs actions sont essentiellement seins nus. Le féminisme radical se nomme le sextrémiste. Quelles ont été leurs motivations, Eva?
Elles ont lancé en 2008 leur groupe pour défendre la démocratie, la prostitution, la corruption et l'influence des religions dans la société. 4 ans après la révolution orange, car il manquait de militantes pour défendre le droit des femmes. Pour les Femen, l'Ukraine est un pays dominé par les hommes où les femmes sont passives. Quelles actions ont-elles déjà menées?
Lors de leur première manifestation en 2008, elles étaient déguisées en prostituées pour dénoncer l'importance de la prostitution en Ukraine. En 2009, elles manifestent seins nus pour lutter contre la pornographie en ligne. Elles étaient mal à l'aise lors de leur début. Et Eva, que veut dire le mot Femen exactement?
Elles ont appelé leur groupe Femen, qui veut dire cuisse en latin. Elles l'ont appelé comme ça car cela sonnait bien. Leur slogan est un dessin d'une poitrine car elles manifestaient seins nus. Cela symbolise les femmes ukrainiennes pauvres, vulnérables et seulement propriétaires de leur corps.
Les Femen sont mal perçues par les citoyens car leurs méthodes sont vulgaires et choquantes. Ainsi s'achève une page d'histoire, une émission réalisée par les premiers à bac pro esthétique. Merci à toutes celles qui ont participé et à très bientôt sur Europe Live.